à tous et bienvenue à cette première émission consacrée à l'Église protestante Vie et Lumière de Montpellier. Pour ceux qui ont suivi le programme de l'émission Un protestant peut en cacher un autre, vous avez pu entendre récemment le pasteur Pierre Gracias. Sinon, vous pouvez faire la recherche sur le site de la radio, vous avez une petite loupe, vous tapez « Un protestant peut en cacher un autre », vous avez toutes les émissions, ou vous pouvez taper « Pierre Gracias » ou tout autre thème si vous cherchez une autre émission. Alors, bonjour Pierre.
Bonjour.
On va présenter d'abord votre église pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, Vie et Lumière, qu'est-ce que c'est ?
Vie et Lumière, c'est une mission évangélique qui a été évangélisée, c'est un peuple gitan qui a été évangélisé en 1952, il y a à peu près 70 ans de ça. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est une mission Vie et Lumière qui contient à peu près 430 églises et 3000 prédicateurs.
Donc, c'est une église gitane.
C'est une église gitane, on appelle ça Zigane.
Zigane.
Qui confond toutes les communautés espagnoles, catalanes, voyageurs, donc on appelle ça mission évangélique Zigane.
D'accord, c'est la mission évangélique Zigane, Vie et Lumière. Et donc, vous êtes combien d'églises, vous venez de me dire ?
430 églises à l'heure actuelle.
430 églises en France ?
En France.
C'est beaucoup.
Oui, ça commence, ça va grandir encore un peu plus. On espère.
Et donc, vous avez combien d'adhérents à peu près ?
Adhérents, je n'ai pas pu les statistiques, mais quand on voit la convention au mois d'août, on est 35 000 caravanes et on est 10 000 adhérents à la convention. Mais on est plus parce que tous ne viennent pas à la convention.
Ouais. Et donc, vous êtes protestant dans cette église depuis donc 70 ans. Ça fait 70 ans que ça a commencé.
Ah oui, 70 ans que ça a commencé.
D'accord. Et alors, cette église Vie et Lumière, vous venez de dire que c'est une église évangélique et protestante.
Et les protestantes, bien sûr, parce qu'on a adhéré à Clément Lecossec, à trouvé bien, et même lui, il était... Et pasteur des Assemblées de Dieu, de Pentecôte,
ouais.
Il était breton. Donc il a bien préféré de relier l'église Vie et Lumière à la Fédération protestante aux années 52.
Donc vous faites partie de la FPF, Fédération protestante de France.
Exactement.
Et c'est important pour vous apparemment.
Bien sûr, parce qu'on est reconnu pour la nation, comme une église évangélique, et non pas comme une secte.
Oui.
C'est important pour nous.
Oui. Qu'est-ce que ça vous donne ? Alors, ça vous aide au niveau de la société en général, des protestants ?
Au niveau de la société,
oui.
Ça nous aide beaucoup, puisqu'on est reconnu comme une église protestante,
oui.
Si même nous sommes tziganes.
Oui.
Ça nous aide beaucoup dans la société.
Donc, vous êtes tzigane, vous êtes gitan, donc vous avez dit qu'il y avait toutes sortes de catégories. Il y avait des Espagnols, enfin des gens d'origine espagnole, il y avait des gens d'origine roumaine, je pense, enfin de l'Europe de l'Est. Et puis, vous avez aussi la grande différence entre ceux qui voyagent et ceux qui sont sédentaires.
Ah oui, c'est à l'opposé. Il y a les voyageurs qui voyagent avec des caravanes tout au long de l'année. Et donc moi-même, je suis montpellierien, je suis né à Montpellier, donc on est sédentaire. Beaucoup de gitans à Montpellier sont sédentaires.
Et alors, les communautés là dont vous venez de parler, c'est des communautés qui sont pour les sédentaires, pour les gens du voyage. Comment ça se passe ?
Non, mon église, c'est comme une église protestante, comme une église catholique, comme toute autre église qui ouvre ses portes. Et l'église est ouverte à tous, et non pas spécialement pour les tziganes.
Oui ?
Non, spécialement pour les tziganes. Tout le monde est la bienvenue.
D'accord. Ah, et vous avez des gens qui sont non-tziganes, qui viennent...
Il y a des gens non-tziganes, comme on dit nous, des payous.
Des payous ?
On les appelle les payous, qui veut dire de non-gitans.
Oui.
Donc ils assistent à nos réunions. D'autres sont membres de l'église où j'ai été pasteur. À l'heure actuelle, c'est mon fils qui est pasteur. Mais j'ai gardé l'église pendant 30 ans et il y a eu des membres d'église qui sont non-gitans.
D'accord. Alors, concrètement, on va aussi donner des informations sur cette église de Montpellier. Donc, elle est située où à Montpellier ?
Elle est située à Avenue Albert Einstein, la cité Montaubirou. Elle y est depuis 1988. Mmh. À l'époque, avant, on était à Sélénève. Mmh. Et aujourd'hui, elle se trouve donc à la cité Montebourg, pas trop loin du Zénith, à Montpellier.
D'accord. Et vous avez des cultes, vous avez des rencontres, vous avez...
Nous avons tous des réunions comme toute église évangélique. On a 3 réunions par semaine, avec des réunions pour les enfants le dimanche après-midi. On a des réunions de jeunesse dimanche soir. Et on a des réunions d'évangélisation et des réunions de prière.
Et alors, vous avez dit donc que c'est important d'être à la Fédération protestante de France, parce qu'on se doute que vous avez beaucoup de difficultés auprès de la société et des pouvoirs publics. On le voit tout le temps sur les actualités. Mmh. Alors, je voudrais qu'on parle, si vous voulez bien, entre les rencontres religieuses qui sont... en théorie, protégée par la loi, puisque vous faites des grandes conventions, vous allez nous en parler, et puis ce qu'on appelle les occupations illégales de terrain. Alors, on va commencer par les grandes rencontres religieuses. Alors, ça se passe comment ?
Bon, les grandes rencontres religieuses à Montpellier ou au national ?
Non, au national, je parle.
Au national, on en a 2. On a une retraite spirituelle après après que l'école biblique des étudiants à Gien s'est finie, donc il y a la clôture de l'école biblique, et juste après, il y a la retraite spirituelle à Gien. Okay. C'est le mois de mai. Et après, on a une autre rencontre nationale, c'est le mois d'août.
Oui, et là, ce n'est pas toujours au même endroit.
Ah non, ce n'est jamais le même endroit. Oui. C'est plus vers le nord que vers le sud. C'est plus vers le nord que vers le sud. Et l'État, la préfecture ont une difficulté de trouver des terrains.
Oui.
Principalement, on trouve des terrains des anciens aéroports ou des camps militaires, où c'est des grands terrains.
Mais là, vous n'avez pas de difficulté avec les pouvoirs publics ?
En ce moment, on a une difficulté, oui.
Parce que, vous avez des difficultés.
Ah oui, l'État, j'ai entendu les dernières nouvelles pour le mois d'août. On ne saura plus comment on va faire l'année prochaine. On a des difficultés. Oui, parce que c'est grandiose. C'est trop grand, une convention si importante.
Et alors, est-ce que vous êtes, vous avez un droit légal d'avoir ces rencontres, même si vous avez des difficultés. Et puis, ce qu'on appelle les occupations illégales de terrain, c'est-à-dire quand une vingtaine de caravanes arrivent et s'installent quelque part. Alors là, y a la police qui arrive. Comment vous, responsable, vous considérez les choses comme... Qu'est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ?
Moi, à l'heure actuelle, donc, je suis sédentaire, je ne suis pas voyageur.
Oui.
Mais j'ai mes amis pasteurs, lorsque à Montpellier, déjà, on a un terrain de voyage pour les gens de voyage qui viennent. On en a 2.
Ouais.
À Montpellier, on a le terrain de la Mosson, vers la Paillade. Mm-hmm. Et on en a 1 à Pérol. Mm-hmm. Donc, la métropole, ils essayent un peu de placer les caravanes tout l'été. Ça se passe bien, peu ou moins. Mais il y a des villes où il n'y a pas de terrain pour les gens de voyage.
Ouais.
Donc, vous savez très bien que la loi Besson a dit que dans une ville de plus de 5000 habitants, il faut qu'il y ait un aire de voyage.
Oui.
Mais la difficulté, c'est qu'il y a des villes, il n'y a pas 5000 habitants.
Oui.
Et il n'y a pas d'aire de voyage pour les gitans.
Oui.
Pour les voyageurs.
Oui.
Donc ça fait, ils s'installent dans des terrains. Il faut bien qu'ils s'installent pour pas qu'ils restent tout au long de sur la route, les nationales, les départementales. Donc ils rentrent dans des terrains qu'ils connaissent peu ou moins.
Ouais.
Et s'installent dedans.
Oui.
Mais c'est inégal, c'est vrai.
Oui.
Mais ils ne peuvent pas faire autrement.
D'accord. Et donc, vous avez ces occupations illégales, et puis vous avez les aires de voyage. Et qu'est-ce que... Moi, j'ai lu récemment, vous allez me dire si c'est vrai, mais dans la presse nationale, pas dans un journal protestant ni religieux, mais que les conditions n'étaient pas toujours géniales. Et ils citaient le cas d'un camp, d'un camp d'accueil qui était coincé entre 2 aéroports, près d'une déchetterie, avec l'autoroute à côté. Est-ce que c'est souvent comme ça, ou est-ce que c'est un cas isolé ?
Non, c'est souvent comme ça. Souvent, pas très loin des châteries, des grands aires d'autoroute. Et en plus, c'est dangereux pour les enfants. Donc c'est pour ça que ceux qui sont en voyage cherchent des terrains où il y a plus de tranquillité et plus de sécurité pour les enfants. Et pour aller travailler aussi, parce que c'est des travailleurs, les ziganes.
Ouais.
C'est des travailleurs, il faut aller marcher, ils se placent dans des marchés, dans des villes, dans des villages. Donc il faut qu'il y ait la sécurité pour les enfants, qui est aussi un peu d'hygiène, parce que beaucoup des aires de voyage sont à proximité des chèteries.
Ouais. Et alors pour les enfants, ça pose évidemment un problème,
parce que
les enfants, ça va partout.
Ça va pour eux un air de jeu pour les enfants.
Ouais.
Et c'est dangereux pour eux.
Et alors comment faire pour qu'il y ait un vrai dialogue entre les citoyens qui sont résidents à l'année et puis les gens du voyage? Est-ce que vous constatez, je suppose que vous le constatez souvent, enfin, ou du moins parfois, des difficultés de compréhension entre les propriétaires de champs qui estiment que on vient, d'ailleurs c'est vrai, on vient les occuper, et puis les gitans qui veulent pouvoir se reposer être en paix. Comment on peut gérer ça? Est-ce qu'il y a des instances de communication ou est-ce que c'est comme ça
Il y a des instances, mais il y a toujours du refus pour les gens de voyage de s'installer dans des terrains, comme il n'y en a pas, donc ils s'installent légalement, c'est vrai. Mais après, les propriétaires des terrains, ils sont furieux, et c'est compréhensible. Il y en a, dernièrement, j'ai reçu la nouvelle qu'ils ont laissé des taureaux dans les champs pour impressionner les gens du voyage. C'est,
oui.
C'est phénoménal, tout ça.
Oui.
Il y a des agriculteurs qui viennent avec le grand tracteur et qui jettent des excréments ou dans le terrain, devant les enfants, devant les familles, pour qu'ils partent.
Et alors, est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec eux? Est-ce que vous essayez de mettre en place des médiations?
Oui, il y a des médiations, il y a des associations.
Ouais.
On est quand même en 2025, on n'est pas du Moyen-Âge. Il y a quand même...
Ouais.
Des structures, il y a des associations qui essaient d'avoir des dialogues,
oui.
Et pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le bien-vivre.
Ouais.
Et parfois ça ne marche pas. Parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas.
Bon, alors on va rester sur le parfois ça marche, et puis
oui.
En espérant que ça s'amplifie. Alors, vous avez fait récemment une campagne d'information donc, sur votre église sous chapiteau à Pérols.
Exactement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? D'abord, quel est le but de cette campagne d'information?
Eh bien, le but, déjà, pour trois points, c'est pour sortir de l'Église. L'Église doit sortir, pas rester fermée, doit sortir pour faire connaître l'évangélisation, la Bible, la parole de Dieu.
Mmh.
Premier but, c'est de ramener les âmes, comme on dit, qui ne sont égarées, de les ramener à Dieu, à Jésus-Christ. Parce que les gitans ne viennent pas à l'église parfois, parce que pour eux, bon, c'est cathédrale, ils ne viennent pas à l'église, mais quand on sort, ils aiment bien le chapiteau, les gitans. Donc ça les attire, et en plus, pour ramener les rétrogrades, et pour édifier l'église.
C'est quoi les rétrogrades?
Les rétrogrades, ce sont ceux qui ont quitté la main de Dieu,
ouais.
Et qui ne reviennent plus, comme les fils prodigues,
d'accord.
Dans la Bible.
D'accord.
Donc le but, c'est de ramener les rétrogrades perdus à la maison de Dieu.
Donc le but, alors les membres visés, c'est plutôt les gitans.
Non.
Non.
Non, non.
Alors c'est une partie.
Oui, c'est, voilà. C'est gitans, c'est zigan, oui. Parce que toute la communauté, on est quand même 10 000 gitans à Montpellier, et ils sont pas tous convertis.
Ouais.
On a pas fait pas mal de travail déjà depuis des années, mais il manque encore du travail, mais c'est pas spécifique que pour les gitans.
Oui.
Il y en a d'autres qui viennent, il y a des chrétiens des Assemblées de Dieu qui nous assistent, qui nous accompagnent,
ouais.
Qui assistent à nos campagnes d'évangélisation sous le chapiteau.
D'accord. Et alors, donc, vous avez fait des rencontres, là, cette fois-ci, vous pouvez nous parler des rencontres que vous avez faites?
Ah oui, des rencontres. Là, on a fait un rallye de jeunesse, samedi, au mois de septembre, sous le chapiteau. On était 600 personnes.
Bon,
c'était déjà pas mal. Hein.
Oui.
Tous les soirs, déjà, on était entre 300-350 personnes qui venaient sous le chapiteau.
Mmh.
Il y avait des prédicateurs qui prêchaient tous les soirs, des chants ziganes, des chants en français, des chants en espagnol et des prédications en français.
Ouais.
Parce qu'on prêche en français.
Ouais.
Et donc, ça s'est très, très, très bien passé sous le chapiteau. Et on compte le faire deux fois par an, mois de mai et mois de septembre.
Toujours à Pérols?
Toujours à Pérols. À l'époque, je le faisais au Zénith.
Ouais.
Quand il y avait le maire, M. Sorel, il nous prêtait le terrain. Là, il y a eu des difficultés. Bon, il y a eu un protocole, on ne pouvait plus prêter les terrains.
Parce
que moi, quand je vais dans un terrain, il n'y a pas des caravanes, comme je suis sédentaire.
Oui.
Il n'y a que le chapiteau qui se déplace.
Ouais.
Et tous les gens viennent avec leur voiture.
Oui.
Donc ça fait qu'il n'y a pas de caravane, juste peut-être quelques-unes pour faire du gardiennage de chapiteaux.
Ouais.
Mais ce n'est pas des caravanes de 40, 50, 60 caravanes.
D'accord.
On est sédentaire.
D'accord. Et alors, donc, dans ces rencontres-là, vous avez eu des nouveaux convertis, vous avez, ou alors est-ce que vous avez l'impression que c'est quand même le petit oui, troupeau, j'aimerais bien que toutes les églises aient des petits troupeaux de cette taille. Mais enfin, est-ce que c'est toujours ce même troupeau ou est-ce qu'il y a des nouveaux convertis?
Oui, le fruit de ce travail, on le voit plus tard, on ne le voit pas de suite.
Ah oui.
Parce qu'après, les âmes ils sont touchées, ils viennent dans nos églises. Là, on attend le retour de ce travail, le fruit de ce travail qu'on a fait sous le chapiteau.
Ouais.
Et normalement, tous les ans, on a du fruit.
Et alors, ce fruit, donc, j'ose pas vous demander de le quantifier parce que ça a un côté un peu mercantile.
Oui.
Mais enfin, est-ce que vous pouvez nous donner en chiffres, en pourcentage, est-ce que ça représente beaucoup ces campagnes sous le chapiteau? Est-ce que ça vous amène?
C'est pas des dizaines et des dizaines.
Ouais.
Alors, ça serait mon but, ma prière, que des dizaines et des dizaines âmes se convertissent à Dieu, à Jésus-Christ. C'est notre prière, c'est notre objectif. Mais il y a quelques âmes qui viennent, qui se convertissent et qui assistent, non pas simplement à mon église, là où je suis responsable, mais à des églises qui sont autour de Montpellier.
Et donc, et les autres? Donc, ceux qui ne sont pas du tout tziganes et qui viennent, est-ce qu'ils sont tentés de venir ou est-ce qu'il y a cette barrière quand même culturelle?
Moi, je ne la sens pas, cette barrière.
Ouais.
Je ne la sens pas parce que je suis, pour moi-même, à titre personnel, je suis ouvert à tous. Et quand ils viennent des non-gitans, dont des païens, je les accueille à bras ouverts. Ils sentent un accueil chaleureux chez nous.
Mmh.
Ils ne se sentent pas dépaysés, au contraire, ils sont là, ils sont heureux. On leur donne la première place, en plus, quand on les voit, parce que quand même, ça se voit quand c'est un gitan ou pas. Donc, on leur donne la première place et ils sont la bienvenue. Il y a des non-gitans qui assistent à nos réunions. Dernièrement, on a eu un monsieur qui est non-gitan, qui fait son métier, c'est taxi. Il fait le taxi et il vient, il assiste aux réunions, au chapiteau. Il s'est converti et depuis, il vient aux réunions.
Alors, ben, très bien pour ces rencontres. Alors, on va parler aussi de l'aumônerie aux prisons, parce que vous êtes aumônier aux prisons, donc vous êtes plutôt aumônier pour la communauté de Tziganes.
Oui.
Et alors, est-ce que vous avez des témoignages sur des prisonniers qui ont été marqués par l'Évangile?
Oui, j'ai pas mal de témoignages et d'expériences à partager avec vous. Mais je vais en citer parmi tant un témoignage que j'ai à cœur de vous le témoigner aujourd'hui.
Ouais.
C'est un jeune garçon, il y a les années 91-92. À l'époque, la prison Villeneuve-Maguelone, c'est la prison 13 000. Elle était construite en France, il y a eu 13 000 places, dont Villeneuve-Maguelone, c'était une des prisons, parce qu'à l'époque c'était au château. Donc quand j'allais donc visiter la prison de Villeneuve-Maguelone, j'ai rencontré un jeune gitan qui était complètement dans le monde, un toxicomane, un perdu. Et je lui ai prêché l'évangile comme je l'ai fait dans la maison de Villeneuve-Maguelone. Et ce jeune homme s'est converti à Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a plus de 20 ans qu'il est chrétien. Et aujourd'hui, il va être aumônier de prison lui-même. Dernièrement, mercredi, il est venu avec moi à la prison. Il a témoigné aux prisonniers comme quoi lui-même était en prison. Lui-même était comme eux. Et aujourd'hui, c'est un témoignage vivant.
Oui.
Aujourd'hui, il dit, maintenant, moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis chrétien. Je donnais ma vie à Jésus. Jésus a transformé ma vie. Et aujourd'hui, je viens vous apporter la parole que Pierre Gracias m'a prêchée quand j'étais en prison. Maintenant, à mon tour, c'est à moi qui vous prêche la parole de Dieu.
C'est certainement très important de recevoir la parole de quelqu'un qui a été lui-même en prison, je suppose. Et alors, on peut être aumônier quand on a fait de la prison?
C'est normalement quand on a un casier judiciaire.
Oui.
C'est très, très, très difficile.
Je pense,
très difficile, oui. Mais là, je pense que c'est un miracle. Là, il rentre avec moi. Il rentre comme intervenant.
Oui.
Il rentre comme intervenant et donc il n'y a pas de problème. En espérant, là, il fait sa demande pour être aumônier. Et je suis en train de le former. Et j'espère que ça va aller bien, qu'il ne va pas avoir des obstacles.
Oui, parce que ça serait dommage, parce que effectivement, c'est quand même des témoignages très importants pour les prisonniers. C'est certainement plus important que des discours faits par des gens qui ont toujours suivi la voie légale, quoi. C'est
un témoignage vivant, en chair et en os, qui peuvent le voir directement. Et alors, leur témoigner comment Dieu a changé leur, son cœur.
Mmh. Et alors ces gens qui se convertissent ou que vous allez voir, est-ce que c'est plutôt des gens, vous allez me dire c'est peut-être les deux, mais qui sont marqués par l'évangile, qui sont convertis, ou alors qui étaient déjà et qui redécouvrent le message biblique? Vous avez les deux types
Les deux types. Hein. D'autres qu'ils ont connus, qui n'ont jamais été convertis, mais qui ont assisté à nos réunions évangéliques.
Ouais.
Et qui ne se sont jamais convertis à Dieu, ils sont rentrés à la prison. Ouais. Il y en a d'autres qui n'ont jamais connu l'évangile. Mais comme on dit culte gitan, parce que bon, il y a le culte protestant, après il y a le culte musulman, après il y a plusieurs nominations. Donc c'est pour ça qu'on dit culte gitan, mais tous sont bienvenus. Il y a des maghrébins qui viennent.
Oui. Et alors, justement, quand vous rencontrez des prisonniers musulmans, de quoi vous parlez? Parce que vous pouvez parler de Dieu, mais parler de Jésus-Christ, oui, c'est un peu plus compliqué.
C'est un peu compliqué, mais quand ils viennent, ils savent très bien qu'on parlera de Jésus.
Oui.
Parce que.
Bien sûr.
On est en Jésus-Christ.
Oui.
Et je pense qu'ils veulent connaître, ils sont peut-être curieux, ils veulent savoir. Et moi, je prêche Jésus. Et je n'ai pas de complications. Il n'y a pas de. Au contraire, ils respectent.
Il n'y a pas d'hostilité.
Ah non.
Ils n'essayent pas de vous dire que...
Il y a des dialogues pour, plutôt pour connaître, pour comprendre, mais ce n'est pas de l'hostilité, c'est pas...
Ouais.
Au contraire, c'est enrichissant. Ouais. Parce qu'il y a aussi des non-gitans qui viennent, comme on dit, des païens qui viennent assister à nos cultes. Et des gitans espagnols, des gitans catalans qui viennent dans nos cultes.
Et alors, une autre question, on va sortir de la prison, on va aller dans le voyage, parce que c'est quand même de là que vous êtes issu, c'est du voyage. Comment on peut pratiquer quand on est en voyage? C'est-à-dire, pour les enfants, pour l'école biblique, pour avoir une certaine vision de l'évangile, de la lecture de la Bible. Comment ça se passe quand on est en voyage?
Les gens du voyage, moi je ne suis pas voyageur, mais les gens du voyage... par connaissance et par information, ils voyagent que l'été. Quand c'est la rentrée scolaire, ils reviennent dans leur ville respective et ils mettent leurs enfants à l'école. À l'époque, c'était difficile. À l'époque, il y avait un car, un autobus, il y avait des associations qui apprenaient les enfants à lire et à écrire parce que les gens du voyage voyageaient toute l'année.
Ouais.
Mais là, c'est récent, ils reviennent dans leur ville pour mettre leurs enfants à l'école. Donc, ils voyagent que l'été. Hein.
Ah oui, d'accord.
4 mois, 5 mois.
Mais alors, quand ils reviennent dans leur ville, où est-ce qu'ils se sédentarisent ou alors ils vivent dans les caravanes? Comment ça se passe?
Ils vivent dans les caravanes.
Ils vivent dans les caravanes. Et c'est là où les aires d'accueil sont nécessaires, alors.
Voilà. C'est là, ah oui, c'est très important pour eux, pour les aires d'accueil.
Oui.
Surtout pour que les enfants aillent à l'école.
Oui, ce n'est pas seulement les aires d'accueil, ce ne sont pas seulement des super campings quand on est en voyage. C'est autre chose.
Ah oui, c'est autre chose pour les voyageurs. C'est très important pour eux.
D'accord. Et alors, donc là, les enfants vont à l'école et ils rejoignent une communauté protestante Vie et Lumière pour avoir l'enseignement, donc l'école biblique.
Oui, des fois, quand les enfants ils sont en voyage, il y a aussi des associations qui viennent... avec des autobus, avec des cars, avec des camping-cars, aménagés pour ça, pour recueillir les enfants, pour les apprendre à lire et écrire. Mais plus souvent maintenant, aujourd'hui, les enfants vont à l'école. Hein.
Oui, oui.
L'école traditionnelle,
oui,
comme les vôtres et les miens.
Oui, oui. Et alors, je voudrais terminer sur une question peut-être un peu compliquée, mais les gitans donc sont d'origine, enfin les tziganes sont d'origine souvent espagnole, roumain, etc. Quand ils deviennent protestants, est-ce qu'ils ne regrettent pas le folklore, les grandes processions? Parce que chez les Espagnols, dans la culture espagnole, les grandes processions, c'est quand même ça a quelque chose. Or, chez les protestants, c'est moins, on n'est pas tellement sur les grandes processions, etc. Est-ce que toutes ces manifestations grandioses de piété qu'ils avaient quand ils étaient catholiques, est-ce qu'ils ne les regrettent pas quelque part?
On ne les regrette pas, au contraire. Au contraire. Parce que tout ce folklore, quand on allait à Lourdes, Sainte-Marie de la Mer, tout ce folklorique de religion catholique, tout ça, au contraire, on ne le regrette pas. On a connu le vrai évangile, la vraie parole. C'est l'évangile enseigné et c'est l'évangile vécu. C'est l'évangile vécu. On vit ce qu'on prêche.
Mm.
Quand on était catholique, on ne vivait pas ce qu'on prêchait. connaissait même pas l'évangile, on connaissait même pas la parole. C'était du folklorique.
Oui.
Voilà, c'était du folklorique, donc ça fait qu'aujourd'hui, on ne regrette pas, au contraire. C'est le contraire, on veut dire aux gens, convertissez-vous à Jésus, ne se convertis pas à une religion. Ce n'est pas le fait d'être vie-lumière ou protestant, le fait de connaître Jésus, c'est le plus important. Donc on fait la paix avec Jésus, c'est ça le plus important. Donc on ne regrette pas, au contraire, on regrette de ne pas avoir connu le Seigneur avant.
Mm-hmm. Mais ce folklore, alors, il n'existe plus chez les gitans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'acculturation, de perte de...
Non, le folklore, il est dans nos campagnes d'évangélisation, dans nos rencontres, comme Vie Lumière, deux fois par an, on a des conventions grandioses.
Ouais.
Ça récompense un peu avec ça.
D'accord.
On a des rassemblements, on a des missions. Enfin, on est toujours actif, on est toujours dans la vie. On est...
Et alors, le folklore, comment il se manifeste dans ces grandes réunions? C'est plus le folklore donc, catholique avec des statues. Alors, c'est comment alors,
Ce folklore, ce sont nos chants, ouais. Ce sont les prédications évangéliques,
ouais.
Ce sont les témoignages qui sont donnés, qui sont vécus. Et là, tout le peuple se réjouit d'écouter tout ça. C'est des expériences vécues. Et c'est ça qui nous fait du bien.
Et est-ce que vous avez des convertis qui retournent au catholicisme, qui regrettent justement tout ça et qui retournent?
Non, je n'ai jamais vu. Depuis ma carrière, depuis 45 ans, je n'ai jamais vu au retour au catholicisme. Là, dernièrement, il y a eu Manité des Plata, si je m'ose dire le nom, mais ça attirait beaucoup de gens au Sainte-Marie de la Mer. Il y avait beaucoup de gitans en France, à Montpellier, ouais. Qui allaient. Maintenant, il n'y a plus personne. Et une anecdote... Manité des Plata, il disait les évangéliques, ils m'ont tout pris. Tout ce folklorique.
Ouais.
Il n'y a plus personne au Sainte-Marie de la Mer.
Ouais.
Et en quelque sorte, il disait, mais c'est vous les pasteurs que vous nous avez tout pris.
Ouais.
Tous ces gitans, ils ne viennent plus au Sainte. Donc pour nous, c'était une joie, au contraire. Au contraire, c'est mieux de s'approcher de Jésus que de s'approcher de folklorique qui ne sert à rien.
Eh bien, je vous remercie, Pierre Gracias, donc de l'église Vie et Lumière, qu'on retrouvera sur nos ondes tous les lundis des mois pairs. Alors, les mois pairs, c'est les mois, ça commencera donc mois d'octobre, donc 10, décembre 12, et puis février 02, etc. Donc, tous les premiers lundis des mois pairs, nous aurons une émission Vie et Lumière. Alors, merci beaucoup donc à Pierre, et puis on lui dit au revoir, à bientôt, et merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité. Au revoir.